Bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, Dieu a-t-il abandonné l'humanité? Vous savez, plus notre monde avance dans le temps qui lui est accordé par Dieu, plus on voit augmenter les violences, les misères de toutes sortes, les tragédies, la souffrance. Et les gens autour de nous, les gens qui ne connaissent pas le vrai Dieu, en fait, même si beaucoup se disent chrétiens, se demandent qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas alors qu'il y a autant de misère sur la face de la terre? Pourquoi les meurtres d'enfants? Pourquoi les guerres? Pourquoi les pauvretés insoutenables parfois? Il y a eu dans l'histoire une première guerre mondiale, 14-18, on disait que c'était la mère de toutes les guerres et qu'après ça, il n'y en aurait plus d'autres. Quelques années après, une vingtaine d'années après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui est encore plus dévastatrice. Les humains ne connaissent pas le chemin de la paix et la misère augmente. Est-ce que Dieu a abandonné l'humanité pour autant? Est-ce que Dieu laisse aller les choses sans s'intéresser à ce qui arrive aux êtres humains? Les gens se demandent vraiment qu'est-ce qui arrive. Mais Dieu répond clairement, et on va voir aujourd'hui dans sa Bible que Dieu non seulement n'a jamais abandonné l'humanité comme telle, mais qu'il est toujours intervenu et qu'il intervient encore. Mais de façon très logique, de façon avec son affection à lui, comme les choses doivent être faites. Allez à psaume 14, s'il vous plaît. Psaume 14. Dieu est au-dessus de tout ça, il voit tout ça, il en est conscient et il en est attristé aussi. Et il voit que les êtres humains se sont détournés de lui et qu'ils en souffrent. Psaume 14, on va lire le verset 1 à 3. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Certains vont même jusqu'à dire devant autant de souffrances, de misères qui continuent, il n'y a pas de Dieu. Si Dieu existait, il ne laisserait pas faire ça. C'est que les gens ne comprennent pas qui est Dieu et les gens ne comprennent pas l'histoire de l'humanité. Ils ne savent pas d'où ça vient. Ici, Dieu fait un constat en disant, les êtres humains sans moi, ou dans le fond, les êtres humains qui se sont détournés de moi, sont insensés. Ils se sont corrompus. C'est pas lui qui les a corrompus. Il dit, ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Tous les êtres humains ont péché, c'est ce que la Bible nous dit. Verset 2, l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Et il n'y a personne qui cherche Dieu de lui-même. Lorsqu'on arrive à trouver le vrai Dieu, c'est parce que le vrai Dieu s'est fait connaître à nous et que c'est lui qui nous a attirés. C'est de cette façon-là que Dieu fonctionne parce que l'humanité s'est coupée de lui. Et ceux, les quelques-uns qui le connaissent vraiment maintenant, c'est parce que Dieu les a appelés. Verset 3, « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Romains 8. Romains chapitre 1, pardon. Romains 1, on va lire à partir du verset 28 à 31. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Autrement dit, il les a laissés aller. Les humains ont voulu s'éloigner de lui, il les a laissés aller depuis le début de l'histoire. Les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et c'est ce qu'on voit apparaître de plus en plus dans la société parce que Dieu n'a pas abandonné la société. Mais la société a abandonné Dieu depuis le début. Je parle de la société humaine en général, et qu'elle le fait de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on voit les fruits humains apparaître avec de plus en plus de laideur dans la société autour de nous. Ça devient la condition humaine d'une famille humaine séparée de son Créateur. C'est important qu'on le sache, qu'on le comprenne. Comme on va voir dans le sermon d'aujourd'hui, C'est vraiment pas Dieu qui a abandonné l'humanité. Ce sont les humains qui se sont détournés de leur Créateur, qui l'ont abandonné dès le début. Et à ce moment-là, en faisant ça, ils se sont automatiquement coupés de sa protection, de ses bénédictions promises. Ça a commencé dès le début. Vous connaissez l'histoire. Ça a commencé avec les deux premiers êtres humains que Dieu a créés, Adam et Ève, dans un jardin formidable où les conditions étaient idéales. Dieu leur a donné la vie aux deux et il leur a donné à ce moment-là quelque chose de précieux, la liberté de choix, ce qu'on appelle le libre arbitre. Ils pouvaient choisir. Ce n'étaient pas des robots. Dieu ne voulait pas créer des robots qui fonctionneraient automatiquement comme en pesant sur des boutons. Il a voulu créer des êtres libres de le choisir et de marcher dans ses voies. Et il leur a donné un choix. Il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne prendrez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il y aura des conséquences si vous choisissez ça. Et le fait de choisir ce qu'ils ont fait, de prendre l'arbre du bien et du mal, qui est symbolique, de choisir de faire ce qu'ils voulaient et de choisir de décider par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. C'était ça le choix, de prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est en fait l'arbre de la mort, l'arbre du malheur. Ils l'ont choisi de déterminer par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal et de faire comme bon leur semble. Et quand vous connaissez l'histoire biblique, vous voyez que ça n'a pas été long, qu'il y a eu un premier meurtre. Deux des enfants d'Adam et Ève, Caïn a tué Abel. C'était dès le début de l'histoire humaine, parce que l'humanité venait de rejeter son Dieu en disant « on va faire ce qu'on veut, on va suivre nos émotions, on va suivre ce que nous on pense être bon et ça va aller ». Non, ils étaient abandonnés à eux-mêmes, de telle sorte que les misères ont commencé, les souffrances ont commencé et ça s'est étendu. Dans le fond, ce que Dieu a dit à nos premiers parents, c'est ceci. « D'accord, je respecte votre liberté de choix. Vous avez choisi de faire les choses par vous-même. Je vous laisse aller. Je vous donne 6000 ans pour faire vos expérimentations humaines. Bâtissez vos propres systèmes d'éducation, comme vous pensez. Bâtissez vos propres gouvernements humains, comme vous pensez. Vous allez essayer toutes les formules possibles, mais vous allez vous en rendre compte, sans moi, vous ne pouvez pas diriger les choses de façon satisfaisante et qui donne des bons résultats. Bâtissez votre monde des affaires. Et vous allez voir où ça va vous mener. À un moment donné, très peu dans la population vont posséder à peu près toute chose et les autres vont être dans la misère, comme on voit aujourd'hui au temps de la fin. Dieu les avait informés, les avait avisés de ça. Et il leur a dit, faites votre expérience, je vous laisse aller. Vous allez faire des essais et erreurs. Et vous allez travailler sans guide, sans standard valable. Vous allez imaginer vos propres standards. À partir de ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que les êtres humains étaient désormais coupés de Dieu, coupés du Créateur. Et ça n'a pas été longtemps après que la méchanceté a augmenté à un point tel qu'il y a eu le déluge. Et après le déluge, il y a eu la destruction de Sodome et Gomorre, tellement la méchanceté encore s'était augmentée sur la face de la terre. C'est toujours la même histoire. Les êtres humains font à leur façon, mais ils se font mal. Ils font mal les uns aux autres de façon atroce. Est-ce que Dieu, pour autant, a abandonné l'humanité? Absolument pas. Plus tard, Dieu est intervenu à nouveau encore. Et c'est ça que je veux que vous voyez à travers le message, c'est que Dieu est intervenu régulièrement dans l'histoire de l'humanité pour ramener les humains à lui, pour les aider à cesser de souffrir puis à vivre d'une façon qui les fasse être heureux et vivre dans la paix et dans l'abondance. Mais alors, Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Après ça, il a appelé une famille. Il a appelé un homme, Israël, avec ses 12 fils, la famille des Israélites, qu'on appelle dans la Bible. Il a choisi cette famille-là, une toute petite nation, et il leur a donné ses lois. Il leur a donné ses fêtes. Et il a mis sur leur épaule la responsabilité d'être un exemple pour les nations autour. Autrement dit, d'être sa nation témoin. C'était ça la mission de la nation d'Israël. Il leur a donné ses lois et la responsabilité d'être un exemple. Il leur a dit clairement, voici quelles sont mes lois, voici quelles sont mes fêtes. Si vous obéissez, vous allez en tirer de grands profits, vous allez être bénis. Je vais pouvoir vous bénir parce que vous allez marcher avec moi. Mais si vous rejetez mes lois et mes fêtes et mes enseignements, les conséquences que vous allez subir seront douloureuses. Lévitique, chapitre 26. C'est un des chapitres où Dieu indique clairement ce qui devait arriver à la nation israélite si elle se détournait de lui. Lévitique, chapitre 26, versets 3 à 6. « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. » Voyez-vous ce que Dieu avait promis comme bénédiction à la nation d'Israël s'il marchait dans ses voies? « À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. » Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes sauvages, les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Puis quand vous regardez l'histoire d'Israël, vous voyez que quand Israël s'approchait de Dieu puis s'appliquait à faire sa volonté, il en recevait des bénédictions et c'est ce qui leur arrivait. Mais malheureusement, ça ne durait jamais longtemps. Et quand ils s'éloignaient de Dieu, là, c'est la deuxième partie de l'avertissement de Dieu qui se mettait en place. C'est-à-dire que Dieu disait, « Si vous ne m'obéissez pas, si vous vous détournez, il y aura des conséquences. » Verset 14, même chapitre, 14 à 16. « Mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous semerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront, et ainsi de suite. » Et quand on continue à lire dans le chapitre, on voit les punitions additionnelles que Dieu ajoute, qui sont en même temps les conséquences des transgressions des êtres humains. Ça s'est appliqué à l'ancienne nation d'Israël, et ça s'applique à nous aujourd'hui, particulièrement aux descendants modernes de la nation d'Israël. Les mêmes calamités sont là. Et si vous remarquez, le premier élément qu'il donne au verset 16 comme châtiment pour indiquer que c'est lui qui est en charge et qu'il y a des conséquences au fait de se détourner de ses lois, il dit, « Voici alors ce que je vous ferai, j'enverrai sur vous la terreur, le terrorisme. » Avez-vous remarqué au cours des dernières années comment le terrorisme, un, est apparu et deux, est monté en flèche jusqu'à atteindre aujourd'hui un sommet inégalé, épouvantable sur la face de la terre? Ça faisait partie de ce que Dieu avait annoncé pour les nations qui allaient se détourner de lui. Et ils ont abandonné Dieu. Et ils en paient les conséquences. Et nous allons en payer, nos nations modernes, les conséquences encore plus que nous le faisons maintenant. Le terrorisme frappe nos villes, nos pays. Mais ça va aller en augmentant. Maintenant, je fais une parenthèse. Pour vous montrer en même temps que Dieu n'abandonne pas sa création et n'abandonne pas la famille humaine. C'est qu'à notre époque, Dieu intervient encore et il appelle un petit nombre de personnes qu'il appelle son petit troupeau dans la Bible, les quelques-uns que Dieu attire au Christ, pour former une minuscule nation spirituelle, pour être un exemple au monde, comme la nation d'Israël devait être à l'époque. Nous, en tant que petite Église de Dieu, dans notre façon de vivre, on doit être un exemple au monde. Pas pour les convertir, mais simplement pour être un témoignage qui a une autre façon de vivre que celle qu'on voit dans la société en général. Et il nous appelle pour annoncer l'Évangile, pour avertir le monde de ce qui vient, et en même temps les informer qu'il y a un merveilleux monde qui vient bientôt, où ce sera le gouvernement de Dieu qui va régner sur la face de la terre. Et pour nous préparer en même temps à servir l'humanité sous la direction du Christ. D'ailleurs, c'est bien mentionné dans Apocalypse 5, on le voit clairement, Apocalypse 5, ça parle de ce qui attend les fidèles serviteurs de Dieu actuellement, ceux qui vivent de façon différente du monde autour d'eux et différente de la façon de vivre qu'on avait auparavant. Apocalypse 5, verset 9, « Tu es digne de prendre le livre, on parle du Christ ici, et d'en prendre les sceaux, car tu as été immolé, le Christ est la victime expiatoire, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Tu as fait d'eux, voyez-vous son but, un royaume, un gouvernement et des sacrificateurs, c'est-à-dire des enseignants pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Parce que Dieu a en vue, dans son plan, qui s'accomplit exactement comme il l'avait prévu, Dieu a prévu qu'après le retour du Christ, le reste de l'humanité allait être appelé, allait être attiré à comprendre la vérité et à pouvoir choisir librement de lui obéir ou non. Dieu est juste. Alors, je ferme la parenthèse maintenant. Je reviens à la nation d'Israël dont je vous parlais. Les nations israélites ont abandonné Dieu, malgré les nombreuses expériences qu'ils ont faites d'avoir eu des bénédictions quand ils étaient proches et d'avoir subi des malédictions quand ils étaient loin. Ils ont abandonné leur Dieu. Ils ont continué à le faire. Les récits de l'Ancien Testament nous le montrent. Est-ce que Dieu a abandonné l'humanité pour autant? Non. Et je veux qu'on le saisisse vraiment à travers le sermon aujourd'hui, parce que ça nous montre la puissance du Dieu qui a établi un plan et qui l'accomplit comme il l'a voulu pour le bien de tous et chacun qui sont impliqués. Tout au long de leur malheureuse histoire du rejet des lois divines, Dieu est intervenu pour les êtres humains. Dieu leur a envoyé, en cours de route, plusieurs prophètes, pas juste un, plusieurs prophètes, plusieurs de ses représentants, pour inviter la nation d'Israël à revenir à Dieu, pour qu'il change et qu'il soit béni, qu'il en retire les bénédictions. On voit à plusieurs endroits que Dieu les invite à revenir, avec, je dirais, l'affection d'un père qui dit à son fils ou à sa fille, « Arrête de faire ce que tu fais. Tu es en train de te détruire. Change. Arrête de vivre des choses qui sont contraires à ce que ça doit être. Ou reviens à la maison et on va reprendre une vie agréable et heureuse ensemble. » On voit dans Zacharie 1, verset 3, par exemple, et la même invitation revient à plusieurs endroits dans la Bible, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi. Revenez à moi. » Donc, ils l'ont quitté. « Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Ils ne demandent pas mieux. « Ne soyez pas comme vos pères, verset 4, auxquels s'adressaient les premiers prophètes. Ne soyez pas comme vos ancêtres. » Et ça a été l'histoire tout au long. D'ailleurs, qu'est-ce qui empêche Dieu de répondre aux supplications des gens, en général, dans le monde? On trouve la réponse dans Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Dieu ne répond pas pour l'instant de façon générale aux prières qui lui sont adressées par toutes les religions du monde ou par qui que ce soit dans le monde qui ne fait pas sa volonté. Il est dit clairement dans ce passage-là que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour aider et son oreille n'est pas trop dure pour l'entendre. Mais il dit clairement, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il y a un mur entre nous et Dieu. Tant que Dieu ne nous appelle pas individuellement et tant qu'on ne se repent pas pour changer et demander le pardon à Dieu et vivre différemment, le mur reste là. Tant que le sang du Christ ne nous lave pas de nos fautes, le mur reste là. Mais lorsque Dieu nous appelle, il nous donne un peu de son Saint-Esprit, on est capable de faire des choses, d'avancer, parce que déjà, il travaille avec nous. Les nations israélites ont refusé de revenir vers Dieu et n'ont pas écouté les nombreux messages d'avertissement répétés qui leur ont été adressés. Jérémie, chapitre 7. Jérémie, chapitre 7. Et on va lire les versets 23 et 24. Encore une fois, Dieu dit, « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. » Autrement dit, suivez mes lois, parce que ces voies sont fondées sur les 10 commandements qui n'ont jamais changé et qui ne changeront jamais, y compris ses fêtes, y compris son sabbat. « Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites. » Pourquoi? « Afin que vous soyez heureux. » Dieu ne veut pas priver les êtres humains de rien, mais il veut qu'on cesse de se faire mal et il veut qu'on soit heureux. C'est pour ça qu'il dit « Marchez dans mes voies. » Et verset 24, « Et ils n'ont point écouté, malheureusement. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur et ils ont été en arrière et se sont retirés plutôt qu'en avant, plutôt que de revenir vers moi. » C'est quoi les conséquences de ça? De ces choix répétés par les êtres humains depuis Adam et Ève, à travers toute l'histoire. Les conséquences de ça, les conséquences des choix humains, meurtre, divorce, famille brisée, enfants abandonnés, corruption dans la société à tous les niveaux, de plus en plus, violence, abus d'enfants, guerre. Maintenant, si je vous demandais de résumer, c'est quoi ça, ce que je viens de vous décrire comme malheur qu'on voit autour, on peut appeler ça, sans crainte de se tromper, les transgressions des lois de Dieu. Comprenez-vous pourquoi Dieu dit « Revenez, marchez dans mes voies et vous allez être heureux. Vous allez cesser de souffrir. » Parce que quand on voit toutes ces misères-là, au sujet desquelles les gens qui ne connaissent pas Dieu disent « S'il existe un Dieu, pourquoi il intervient pas? » C'est qu'à ce moment-là, on voit clairement que tous ces maux dans la société viennent des mauvais choix des êtres humains, mais qui ne connaissent pas l'histoire de l'humanité. Ce sont les transgressions aux lois de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu veut. On vient de voir que Dieu veut le bonheur des siens, des êtres humains. Maintenant, je vais plus loin, parce qu'écoutez, pour comprendre l'état de la situation, toutes ces situations dramatiques que je viens de vous décrire, qui sont des transgressions aux lois de Dieu, pour comprendre la situation actuelle qui va en empirant dans ce sens-là, il faut savoir d'où ça vient. Il faut savoir la cause de ça. Le début de l'histoire, la cause véritable. Ce n'est pas Dieu qui en est la cause. Ce sont les choix arrêtés des êtres humains depuis le début. C'est ça la cause. Et si on ne sait pas la cause, on a tendance à mettre la cause sur Dieu. On voit seulement les conséquences de nos actions mauvaises et on dit, bien, c'est la faute de Dieu. S'il existe, pourquoi il ne fait rien? Non, il existe. Il est intervenu tout au long de l'histoire. Il a donné un code de vie selon lequel on peut être heureux. Le seul code de vie selon lequel on peut être heureux. Mais on l'a toujours rejeté. À nous qui sommes appelés maintenant, on doit le mettre en pratique dans nos vies pour être un exemple de cette façon de vivre-là. Et on en tire les bénéfices. Écoutez, je vous donne un exemple qui peut vous aider à comprendre. Monsieur Armstrong utilisait cet exemple-là dans le passé. Et pour comprendre le fait que les humains, là où ils sont, ne comprennent pas la cause des malheurs, des maux de la société, c'est comme si vous arriviez au visionnement d'un film 5 minutes avant la fin. Ça fait plus d'1h30 que le film se développe. Vous arrivez à la toute fin, vous voyez quelque chose, vous dites « ça n'a pas de bon sens ». Puis là, vous ne savez pas pourquoi c'est comme ça. Les êtres humains qui vivent ce qu'ils vivent maintenant, mais qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne savent pas d'où ça vient et quand ça a commencé et que ça a été la répétition des mauvais choix humains au cours de toute l'histoire, ne peuvent pas saisir. Ils voient les drames, ils voient la misère, les viols, les vols, les meurtres, toutes ces choses-là, et ils disent « ça n'a pas de sens ». C'est vrai que ça n'a pas de sens. Et ils disent « bien, s'il existe un Dieu, pourquoi il n'intervient pas ?» Et ils ne comprennent pas que, même s'ils croient que Dieu existe, ils ne comprennent pas qu'il n'intervient pas. Mais il est tellement intervenu. Il a fait ça tout le long. Il a fait ça tout le long, mais il ne force pas les êtres humains à faire le bien. Il leur a montré ses lois, mais ils l'ont toujours rejeté. Et dans le fond, ce qui leur permet de faire, c'est de vivre eux-mêmes jusqu'au bout l'expérience de leur propre choix pour qu'ils soient convaincus que ce n'est pas la bonne voie, qu'il y a seulement une bonne voie à suivre, que c'est la voie de Dieu. Alors, les gens souffrent de plus en plus sans comprendre vraiment d'où ça vient ni pourquoi. Et ceux qui croient en Dieu, à cause de ça, à cause de toute la misère, des souffrances, des guerres de toutes sortes, perdent confiance en Dieu. Oui, ils perdent confiance en Dieu et ils se demandent pourquoi il n'intervient pas. Ils ne comprennent pas que leur misère vienne de leur abandon de Dieu ou de l'abandon de Dieu par les êtres humains. Ils ne considèrent pas, autrement dit, le début du film, ni le déroulement du film, les événements qu'on peut apprendre en étudiant la Bible. Ils ne considèrent pas que le Dieu réel veut vraiment leur bien. Ils ne considèrent pas ça. Alors, ils se disent, mais pourquoi tous ces malheurs-là nous arrivent? Allez dans Ézéchiel 33, ça vaut la peine. Ézéchiel chapitre 33. La Bible est très claire concernant le thème que je vous donne aujourd'hui. Ézéchiel 33, on va lire le verset 10 et 11. « Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, » on parle de la nation d'Israël dans l'histoire ici maintenant, « vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? » Autrement dit, comment on va s'en sortir? Les choses vont de mal en pis. Il n'y a pas de solution pour nous. C'est ce que Israël disait à un moment donné, aux prises avec des situations extrêmes. Et c'est ce que nos nations vont dire bientôt, quand ils seront aux prises avec des situations extrêmes. Qu'est-ce que Dieu répond? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, celui qui a établi un plan et qui l'accomplit. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, parce que le résultat de nos fautes, de nos transgressions, c'est de nous faire mal à tel point de mourir. C'est que le méchant change de conduite et qu'il vive, qu'il change de conduite et qu'il vive. Et regardez encore la fameuse phrase d'un père qui dit à son fils ou à sa fille, « Change, arrête de te faire mal, reviens. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi est-ce que vous continuez de souffrir? » C'est fort, c'est fort. Romains 11, verset 2, Paul explique la même chose ici. Romains chapitre 11, on va lire les versets 2 et 3. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Est-ce que ça peut être plus clair? Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie, un prophète de Dieu dans l'Ancien Testament, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Et c'est vrai, plusieurs des envoyés de Dieu pour avertir la nation d'Israël ont été tués par les Israélites. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Est-ce qu'ils acceptaient Dieu? Non seulement ils l'abandonnaient, mais ils tuaient ceux que Dieu envoyait pour les avertir et les amener à changer. Et c'est intéressant, il y a une petite parenthèse qu'on peut voir ici qui nous fait penser à nous aujourd'hui, le petit troupeau que Dieu a appelé. Cette infime partie de la population qui fait le petit troupeau de Dieu. Verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Il dit, pour encourager son prophète, « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Alors, le prophète Élie, qui était dans une position dangereuse, qu'on voulait tuer, se plaint à Dieu, et Dieu dit, « Écoute, tu n'es pas seul, Élie. Il y a 7000 hommes qui m'appartiennent, que tu ne connais pas, qui sont là dans la nature un peu partout. Ce sont mes serviteurs aussi, parce que je continue à accomplir mon œuvre, parce que je suis un Dieu qui n'abandonne pas l'humanité. » Il ne donne pas tout le détail de ça, mais il dit, écoute, j'ai 7000 hommes qui m'appartiennent. On continue le travail. Alors, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu n'a jamais abandonné la nation d'Israël et Dieu n'abandonne pas l'humanité non plus. Ce sont les humains qui ont abandonné Dieu. Vous irez voir dans Jérémie chapitre 2. Vous lirez le verset 32 et 33. Je vous les lis ici. « Mon peuple m'a oublié. » C'est Dieu qui parle. On revient sur le même thème. « Mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. » On pourrait dire depuis le début des jours humains. « Depuis des jours sans nombre, mon peuple m'a oublié. » Et regardez verset 33. « Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. » Et ce que les humains aiment, c'est la transgression des lois de Dieu. C'est les vols, c'est le mensonge, c'est l'adultère, c'est la cruauté, c'est la violence qui va maintenant en augmentant de plus en plus. Comme on voit quand on regarde dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4, qui décrit l'état de notre monde actuel, comment c'est rendu loin, comment c'est rendu grave. Alors, il dit au verset 33, « Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. « Jusque dans le pan de ton habit se trouve le sang des pauvres innocents. » On a vu tantôt que tous les êtres humains sont des pécheurs, se sont détournés de Dieu. Qui que ce soit, tous. Tous les êtres humains ont péché. Tous les êtres humains sont méchants. Certains plus que d'autres, mais tous sont méchants. Au point de départ, c'est nous. Et c'est de là qu'il faut partir pour changer, pour devenir des fils et des filles de Dieu, pour développer son caractère. On voit le résultat du fait que l'humanité a choisi de faire les choses à sa façon et de dire elle-même ce qui est bien ou ce qui est mal. Et à un moment donné, au cours de l'histoire, il n'y a plus de différence entre ce qui est bien et ce qui est mal non plus, même que c'est le contraire, comme la Bible dit. Un jour, les gens devaient appeler le mal bien et le bien mal. Et on est rendu là aujourd'hui. Ce qui est rejetable à tout point de vue, ce qui est mauvais, les gens l'aiment et veulent le pratiquer. C'est ce que Dieu dit ici. Tu aimes, tu cherches ce que tu aimes. C'est le sort des humains. Et regardez le résultat de ça au temps de la fin où nous sommes. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. « Sache que dans les derniers jours, et je ne vous apprends rien, on est dans les derniers jours, et le temps se fait court, et les signes que le Christ a donnés de son retour et du changement de garde sur la face de la terre, il est proche. » Heureusement, parce que Dieu va mettre fin aux souffrances humaines. Ça aussi, ce sera une intervention. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ils ont été difficiles jusqu'à maintenant, mais ils vont être encore plus difficiles bientôt. » Car, et là, il explique pourquoi les temps sont difficiles au moment où on vit. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'on ne voit pas dans les journaux chaque jour des gens d'affaires, des gens dans le domaine de la justice, des gens dans les gouvernements qui courent après des pots de vin, après des arrangements secrets pour donner des privilèges à certains et s'enrichir sur leur dos avec des mensonges et tout ce que vous voulez? Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles. Les gens ne se préoccupent plus de la douleur des autres, plus vraiment. On voit comment nos personnes âgées, par exemple, dans les lieux d'hébergement, sont souvent maltraitées, malheureusement. Pas partout, mais de façon de plus en plus grande. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est aussi les transgressions des lois de Dieu. C'est la façon d'agir de quelqu'un qui a rejeté Dieu et ses lois et qui cherche les choses qu'il a choisi de faire. C'est ça. Choisir de s'enrichir à tout prix, d'écraser les autres, de mépriser les autres, et ainsi de suite. Choisir la cruauté, choisir le mensonge, choisir ce que vous voulez. C'est l'injustice, le mensonge, les abus, les adultères, la violence et les guerres de plus en plus. Ce sont les tristes comportements humains que nous voyons aujourd'hui. Non seulement que nous voyons aujourd'hui, mais que nous voyons s'augmenter et qui vont s'augmenter encore, jusqu'au seuil de l'autodestruction de toute la race humaine. C'est ce qui va arriver. Mais Dieu n'a pas abandonné sa création, l'humanité, parce qu'il va intervenir au dernier moment pour pas que l'humanité s'autodétruise totalement. On le voit dans la Bible. Encore une autre intervention de Dieu. Est-ce qu'il a abandonné? Non. Il va se servir de tout ça pour amener les êtres humains à enfin comprendre quelle est la seule façon de vivre qui amène le bonheur et la paix. Vous pourrez voir dans Matthieu 24, 21, 22, c'est un verset ou un passage qu'on connaît très, très bien. Il parle ici du temps de la fin qui est tout juste devant nous, quand les choses vont s'aggraver. Le temps de la Troisième Guerre mondiale aussi. Le temps où il y aura des phénomènes jamais vus sur la planète. Il dit, car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil, depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et quand on regarde simplement les deux grandes guerres mondiales, à quel point elles ont été atroces, quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, toute la cruauté, la méchanceté, pour que le Christ dise qu'il n'y a jamais eu de détresse semblable dans le passé, ça veut dire que la grande détresse qui s'en vient sera terrible, sera vraiment terrible. Et il dit après ça, et ça c'est l'espoir de l'humanité, parce que Dieu va intervenir, va empêcher ça de continuer, d'aller à son terme. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, c'est-à-dire personne ne resterait en vie. Mais à cause des élus, le petit troupeau qui est appelé maintenant à vivre différemment, et qui sera emmené à un lieu de sécurité. À cause de ce petit troupeau-là, à cause des élus de Dieu, il dit, ces jours de grande détresse seront abrégés. Dieu va intervenir pour mettre un terme à ça, en envoyant Jésus-Christ pour établir son gouvernement. Est-ce parce que Dieu a abandonné l'humanité? Non. Au contraire. Avec tout ça, j'espère que vous voyez que tout au long de l'histoire, Dieu a toujours été présent selon son plan, dans son amour. Et la bonne nouvelle dans ce qu'on vient de voir, c'est que bientôt, le Christ va revenir pour établir son gouvernement sur la face de la terre. Zacharie 14. Zacharie, chapitre 14. Un passage que vous connaissez sans doute très bien. Zacharie, chapitre 14. Ça décrit le moment où le Christ va revenir sur la terre, établir son gouvernement. Verset 3. L'Éternel paraîtra. Et regardez, il sera accepté avec joie par toute l'humanité pour la première fois. Absolument pas. Regardez, quand il va apparaître, quand il va revenir tel que promis, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'en prendre à lui, ils vont vouloir le tuer. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Et là, il ne viendra pas en tant qu'être humain physique pour donner sa vie. Il revient en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, en pleine gloire. Et il vient établir son gouvernement. Il combat comme au jour de la bataille. Verset 4, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. » Versets 8 et 9, « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. » Verset 9, L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel. Le seul vrai Dieu sera connu. Il n'y aura plus de faux Dieu. Et son nom sera le seul nom. Mais comme on voit, les humains ne l'accepteront pas. Quand ils vont le voir revenir dans sa gloire, ils vont vouloir s'en prendre à lui. On le voit clairement à Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Je mets ensemble les morceaux du film qui vont un après l'autre, pour qu'on voit la suite des événements. Apocalypse chapitre 19, et regardez le verset 19. « Et je vis la bête, l'Empire romain ressuscité, et les rois de la terre et leur armée, rassemblés pour faire la guerre à qui? À celui qui était assis sur le cheval, au Christ, et à son armée, au moment de son retour. » Le retour qu'on a vu tout à l'heure dans Zacharie. Et pour être sûr de qui il s'agit, de ce personnage-là qu'ils vont combattre, les armées du monde, regardez à partir du verset 11 du même chapitre, verset 11 à 13. « Puis je vis le ciel ouvert, fantastique comme image, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Ça décrit le Christ comme on voit au début du livre d'Apocalypse. Là. « Était comme une flamme de feu. » Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Pourquoi? Parce qu'il a versé son sang pour les êtres humains que nous sommes. Son nom est la parole de Dieu. C'est clair que c'est le Christ. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Et là, ça raccroche au verset 19, après qu'on vient de voir. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Lui, le Christ, le roi des rois, le plus grand prophète, le plus grand envoyé de Dieu. Il est venu il y a 2000 ans en tant qu'être humain faire connaître le Père et sa loi et donner sa vie pour payer l'amende de nos péchés. Hébreux chapitre 1. Hébreux, chapitre 1, on va lire simplement le verset 1 à 3. Et ça montre encore que Dieu est intervenu plusieurs fois par ses prophètes dans l'histoire, mais qu'à un moment donné, il y a environ 2000 ans, il a envoyé son propre fils, le Christ, prophète aussi. « Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, nos ancêtres, par les prophètes, Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils, par son Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés lorsqu'il est venu la première fois, qu'il a donné sa vie, qu'il a versé son sang. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Ça montre les interventions de Dieu dans son plan. Et on sait que en faisant ça, le Père a donné son propre Fils. On voit dans Jean 3, verset 16, c'est écrit noir sur blanc, et c'est un verset clé. Dieu a tant aimé le monde, il ne l'a pas abandonné. Il a tant aimé le monde qu'à un moment donné, il a même donné, comme c'est écrit, son Fils unique pour venir dans la chair humaine souffrir et même mourir de façon atroce. Pour que nous ayons accès à son trône de miséricorde et pour que nous puissions recevoir un jour la vie éternelle si nous nous repentons. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que Dieu est intervenu Oh oui. Puis en tant que père, vous ne pensez pas qu'il a souffert de voir son fils passer par ces atrocités? Un père ne peut pas rester insensible à voir son enfant souffrir. Ça avait été planifié par les deux. Et ils sont allés jusqu'au bout de cette souffrance-là, tous les deux, pour chacun des êtres humains qui existent et qui ont existé et qui auront leur chance dans le monde à venir. Et après le monde à venir, lorsque Dieu va ressusciter tous ceux qui ont vécu dans l'histoire pour qu'ils aient leur première chance de comprendre la vérité. Dieu n'a jamais abandonné l'humanité, mais l'humanité a toujours abandonné son Créateur. Au contraire, comme on voit, il a même donné son Fils unique. Comment est-ce que les humains ont réagi quand Dieu est allé jusqu'à ce point de donner son Fils unique? Ils l'ont, vous le savez par les textes, ils l'ont méprisé, ils ont ridiculisé le Christ, ils l'ont rejeté et finalement, ils l'ont tué de façon horrible. C'est ce qui s'est passé. C'était bien sûr prévu dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas été surpris de ça. Dieu a voulu que les choses soient de cette façon-là. Et à son retour qui approche, il va venir, comme je mentionnais, en pleine gloire, mais en pleine puissance. Et il va venir encore là par amour pour l'humanité, pour libérer l'humanité, pour empêcher l'humanité de se détruire totalement, pour établir sur la terre un gouvernement avec des lois justes et un gouvernement bon. Des gens qui ne seront pas là pour eux-mêmes, mais pour servir les êtres humains, pour bâtir une société enfin heureuse, pour leur bonheur. Comme on a vu tantôt, je veux que vous marchiez dans mes voies pour le bonheur, pour votre bonheur. Et ce sera encore dans le même but que Dieu va envoyer le Christ pour établir son gouvernement. Et à ce moment-là, Dieu, qui n'a jamais abandonné l'humanité, va intervenir encore pour les humains qui auront survécu, le petit nombre qui auront survécu à la Troisième Guerre mondiale. Dieu va intervenir encore une fois pour qu'eux aussi aient leur chance, pour que leur cœur soit changé. Parce que c'est ça qu'il faut que change, le cœur des êtres humains, pour qu'enfin une société totale fasse son apparition totalement bonne, totalement différente de celle qu'on a maintenant. Il faut que les gens aient un changement de cœur et qu'ils se mettent à obéir aux lois de Dieu dans leur ensemble, de sorte que là, le monde va devenir meilleur et qu'on assistera à un moment donné à ce merveilleux monde à venir, à cette société tout à fait nouvelle, tout à fait différente de celle qu'on vit maintenant. Alors, leur cœur sera changé. Pourquoi? Pour qu'ils soient capables d'observer ces lois. Nous, on n'est pas capables par nous-mêmes d'observer ces lois. Je parle de nous, là, ceux qui sont appelés maintenant le petit troupeau. On doit supplier Dieu chaque jour de nous donner la force, hein, d'éliminer nos fautes, de vivre selon ses voies, d'avoir plus de douceur, d'avoir plus de patience, d'être plus généreux, d'accomplir son œuvre, et tout ça, d'éliminer nos faiblesses, de lutter là-dessus. Ça se fait dans le temps. Et Dieu nous répond, il nous aide. Mais de nous-mêmes, on ne peut pas. Dieu change le cœur de ceux qu'il appelle maintenant son petit troupeau, de ceux qui acceptent de vouloir se soumettre à ses lois. Dieu les bénit. Il change leur cœur puis il leur donne la force. Mais il va faire la même chose après le retour de Christ, quand il va intervenir, encore une fois, pour appeler le reste de l'humanité, tous ceux qui seront les survivants de la Troisième Guerre mondiale. Allez dans Ézéchiel chapitre 36, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 36. Versets 26 et 27. On voit ce que Dieu va faire à ce moment-là, en parlant du reste de l'humanité qui sera des survivants de la Troisième Guerre mondiale. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » C'est là qu'il faut que le changement commence. « Et je mettrai en vous un esprit, c'est-à-dire une disposition de cœur nouvelle. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit, c'est-à-dire sa puissance, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, ce que Dieu nous accorde à nous maintenant quand on le supplie chaque jour de faire ça, afin que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes voies. Et quand vous regardez un petit peu plus loin dans le chapitre, versets 28 à 30, là, on voit les bénédictions que Dieu a tellement hâte d'accorder aux êtres humains. « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, je multiplierai vos récoltes, il n'y aura plus de famine. » Je multiplierai le fruit des arbres des champs, le fruit des productions agricoles des champs. Vous pourrez lire le reste du passage. Ces bénédictions qui attendent l'humanité qui sera à ce moment-là disposée à changer. Et vous savez une chose? Ça va être vraiment intéressant. Allez à Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. un verset qu'on cite souvent dans nos émissions de télévision parce que ça décrit vraiment le début du merveilleux monde à venir quand le Christ sera sur la terre. Parce que les cœurs seront changés et que les gens vont à ce moment-là désirer de tout leur cœur vivre enfin selon les lois de Dieu. Regardez ce qui va se passer. Ésaïe 2, versets 2 à 5. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu en langage biblique, sera fondée sur le sommet des montagnes, sera au-dessus de tous les gouvernements qui peuvent exister, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, les plus petits niveaux de gouvernement, et que les nations y afflueront. Des peuples, voyez-vous, ces peuples-là, ce sont les survivants de la Troisième Guerre mondiale, des peuples s'y rendront en foule au gouvernement de Dieu et diront, ça va venir d'eux-mêmes, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Tournons-nous, autrement dit, vers le gouvernement de Dieu pour être enseignés, pour être dirigés, afin qu'il nous enseigne ses voies. Voyez-vous à quel point c'est différent de tout ce qui est arrivé dans l'histoire. Quand Dieu leur donnait ses lois, puis qu'eux se détournaient, l'abandonnaient, combien de fois dans l'histoire? Ici, les gens vont dire, enseigne-nous tes voies, enseigne-nous tes lois. Ils vont vouloir l'apprendre, parce que Dieu aura changé leur cœur. Et que nous marchions dans ces sentiers, pas juste pour connaître les lois, mais pour en vivre, c'est ça. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Je comprends, parce que le Christ sera à Jérusalem, ce sera son quartier général. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et regardez ce qui va se passer sur la face de la terre alors qu'il y a de plus en plus de guerres et qu'il y en aura de plus en plus, de sorte que la dernière détresse sera plus grande que toutes celles qu'il y a eu dans l'histoire humaine. De leurs glaives, à ce moment-là, de leurs armes de guerre, ils forgeront des joyaux, c'est-à-dire des instruments agricoles. De leurs lances, ils vont former des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Tout sera changé et tout va changer. Ça ne sera pas d'un coup, mais tout va être changé de façon graduelle. Dieu aura d'abord changé le cœur des êtres humains. Fantastique. Ça nous montre vraiment que Dieu n'a jamais abandonné son humanité, l'humanité qu'il a créée, sa petite famille humaine, si vous voulez. Au contraire, lui avait un grand plan. C'est qu'il va donner à chaque être humain qui ont vécu et qui vont vivre la chance de choisir de lui obéir ou non. Et à ceux qui vont choisir de lui obéir, il va les transformer en êtres spirituels éternels, nés dans sa famille, membres de la famille divine royale, pour un avenir fabuleux. C'est ça. Il n'a jamais changé. Et il n'a jamais abandonné l'humanité. Il est intervenu à plusieurs reprises. C'est ce que je voulais qu'on réalise vraiment aujourd'hui, qu'on voit quel Dieu nous servons, comment c'est un Dieu fidèle, sur qui on peut compter. Pourquoi est-ce qu'on a le bonheur de comprendre ces choses-là, de les savoir, parce que ça nous est donné. C'est pas parce qu'on est plus intelligent ou qu'on a été meilleur. Personne n'est bon. Personne n'est meilleur que d'autres au point de départ. On est tous des pécheurs, mais si on comprend ces choses-là, c'est parce que ça nous a été donné. C'est parce que Dieu nous a appelés. Et nous sommes ceux avec qui Dieu travaille pour nous amener à terme. Et on goûte déjà les bons fruits de pratiquer ces lois. Parce qu'automatiquement, il y a des bons fruits qui découlent de ça. Maintenant, c'est quoi les leçons pour nous? Hein? Je vous donne ça en terminant. Quelles sont les leçons pour nous de ce message aujourd'hui? Il y en a des grandes leçons. Parce qu'on est encore humain, on a encore un libre arbitre. C'est qu'il nous faut être constant, il faut être engagé par rapport à Dieu. Il faut travailler à lui être fidèle. Si on ne fait pas d'efforts constants pour rester proche de Dieu, nous pouvons tranquillement, graduellement, nous éloigner de lui et faiblir et même devenir tiède, comme si notre appel n'avait plus autant d'importance, comme si ça n'avait pas autant d'importance de changer, de travailler fortement à changer nos voies. Et ça, c'est dangereux. C'est qu'on est à risque à ce moment-là de perdre notre couronne de vie éternelle. Mais encore là, à ceux à qui ça va arriver, et ça va arriver un certain nombre, Dieu les appelle les Laodicéens. C'est des membres de son Église, mais des membres de l'Église qui font les choses à leur façon ou qui n'acceptent pas tout ce que Dieu nous dit de faire. qui ne se pressent pas nécessairement pour changer, qui se laissent offenser par toutes sortes de choses et qui se retirent tranquillement en arrière. Ils appartiennent à Dieu. Et parce qu'ils appartiennent à Dieu, Dieu ne les abandonnera pas non plus. Il va leur donner une dernière chance. Il va leur donner une dernière chance. Dieu va permettre qu'ils soient rejetés, si vous voulez, dans la grande détresse, pour prouver à Dieu, dans des circonstances extrêmes, qu'ils tiennent à faire sa volonté. Et là, ce sera le temps pour eux, la dernière chance de prouver à Dieu qu'ils veulent lui appartenir. Il va les... Quand le Christ dit « J'aimerais ça que vous soyez bouillant ou froid, mais vous êtes tiède, je vais vous vomir de ma bouche. » Vous allez passer par le creuset, vous allez passer par des épreuves, comme on voit dans l'Apocalypse. « Prouvez-moi que vous voulez m'appartenir. » Ce sera une épreuve terrible, mais pour certains, ce sera encore la dernière chance de pouvoir entrer dans le royaume, de pouvoir ne pas perdre totalement leur couronne. Allez à 2 Pierre chapitre 1, s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre 1, vers la toute fin de votre Bible. 2 Pierre chapitre 1. Vous savez, ceux que le Christ va envoyer dans la grande détresse, parce qu'ils lui appartiennent encore, pour leur donner une dernière chance. Dans le fond, il va faire à ce moment-là quoi? C'est qu'il va mettre en pratique une promesse qu'il a faite. Il a dit, jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Et ce sera une occasion de ne pas délaisser la personne, de permettre à la personne d'avoir une dernière porte de sortie pour entrer dans le royaume, pour sortir de sa misère, de sa faiblesse, pour vraiment choisir Dieu en étant prêt à payer un prix extrême de leur propre vie. C'est ça que ça veut dire. Mais là, il y a une promesse garantie, une garantie certaine que Dieu nous donne si on fait notre part d'autre côté. Et c'est encourageant. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » C'est fort, ça. Dans le fond, Dieu nous dit ici, « Écoutez, à ceux que j'appelle, je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour y arriver. Je vous donne tout ce que vous avez besoin. La balle est dans votre camp. C'est à vous de faire les bons choix. C'est à vous de me supplier, de rester proche, de demander mon aide, mais pas de rester à part. Si vous restez à part, vous êtes à part. Vous n'êtes pas avec moi. » Et le Christ a donné l'exemple du cep. Si vous n'êtes pas attaché au cep, si vous restez à côté, vous allez sécher. Et vous ne pourrez pas être là. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui a contribué à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Et si vous connaissez le vrai Dieu, si vous comprenez ce que je vous explique aujourd'hui, c'est parce qu'il vous l'a donné, c'est parce qu'il vous a appelé et qu'il vous promet ici de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Comptez pas sur vous. Moi, je compte pas sur moi. Si je compte sur moi, c'est effrayant parce que je pourrais pas y arriver. Mais si je compte sur le chef de l'armée de l'Éternel, mon Sauveur, qui vit en nous, comme M. Meredith dit, hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est lui qu'on doit supplier de me donner sa foi, son courage, sa force, son amour, puis de m'aider à vaincre mes faiblesses. Mais je reviens à ça, c'est une promesse extraordinaire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et il est fidèle, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Comment on devient participant de la nature divine? En se laissant guider par l'Esprit divin, par l'Esprit de Dieu. Et on développe son caractère, sa nature à ce moment-là. Et comment on fait ça? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En se détachant de toutes les corruptions auxquelles on était mêlés auparavant et auxquelles on peut encore rester attiré aujourd'hui. Continuer le combat pour se débarrasser totalement de ça. Et regardez plus loin, versets 10 et 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, à rendre solide votre appel, votre engagement et votre élection. Élection parce qu'on a été choisi par le Christ. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Quelqu'un qui reçoit l'élection de Dieu, c'est qu'il a été élu, il a été choisi par le Christ parmi les nombreuses personnes que Dieu a attirées au Christ. Certaines ont fait le chemin d'aller vers le Christ, d'autres non. Et parmi celles-là, qui ont reçu le témoignage et qui ont été appelés, le Christ en choisit quelques-uns. C'est lui qui nous a choisis. Et ceux-là sont des élus de Dieu. Ils ne sont pas encore rendus au bout, mais sont des élus de Dieu. Il faut qu'ils soient fidèles ensuite. Parce qu'on voit par la Bible que ceux qui vont accompagner le Christ à son retour, lorsqu'il va descendre sur un cheval blanc, ceux qui vont être avec lui, nous, j'espère qu'on sera là, ce sera les élus qui auront été fidèles. C'est ça, les appelés, les élus, les fidèles. C'est le même groupe, mais ils auront franchi les trois étapes. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Voilà la recette. Pas parce qu'on est parfait, pas parce qu'on manque pas notre coup de temps en temps, mais il faut se relever tout de suite, de demander l'aide, demander pardon. Mais il dit, si vous faites ça, vous ne broncherez pas. Vous allez, au contraire, devenir de plus en plus fort malgré les épreuves. Verset 11, « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. » Dieu n'abandonne jamais. N'abandonnons jamais non plus.